On est arrivé ici, on a vécu comme ça. Et après, papy faisait pas mal de petits travaux à côté. Comme il avait des jours de repos, il allait faire des jardins à droite et à gauche. Comme ça, comme on dit, ça mettait un peu de beurre dans les épinards. Hein. On a toujours fait comme ça. Hein.
Les gens d'ici.
Une série de portraits sonores qui racontent le territoire.
Alors, il est retombé dans la charcuterie, le commerce. Là, au début, avant que Tantin Dédé, qu'il hérite de ses parents. Alors, ses parents, ils faisaient que les marchés. Et Dédé, il a continué à faire comme ses parents. Après, ils ont vendu la charcuterie et Dédé, il a gardé qu'à faire les marchés. Hein. Il fait que les marchés. Dédé, il fait que les marchés maintenant, voilà. Et voilà, et maintenant, il est à la retraite aussi. Mais c'est comme ça qu'on a vécu. Ah, notre vie, elle aurait été plus belle, hein.
Les gens d'ici.
Une série de portraits sonores qui racontent le territoire. Pour les gens d'ici, nous accueillons dans les studios de Radio Larzac Thierry de la ferme des Truelles et Jonathan de la ferme de la Mayou, tous deux paysans et éleveurs sur le Larzac. Bonjour.
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 Hugo est aussi avec nous de l'autre côté de la vitre à la technique. Merci Hugo. Alors Thierry et Jonathan, pouvez-vous tout d'abord présenter vos activités agricoles respectives?
Moi je fais partie de GAEC des Truelles du Larzac où on travaille à 5. On fait surtout du fromage, brebis et chèvres et on fait aussi du pain. Moi c'est surtout sur cet atelier-là que je suis. Donc on produit du blé qu'on transforme sur place en farine et en pain dans un four à bois. Voilà. Mais moi, je suis en fin de parcours et je suis en train de transmettre cet atelier.
Jonathan ?
Moi, je suis dans le GAEC de la Mayou, donc avec ma compagne, et on sera bientôt trois aussi. Et on fait du fromage de chèvre. Nous, on est plus spécialisés, on fait que du fromage de chèvre. Voilà.
En 2023, Radio Larzac fêtait ses 20 ans, et le magasin de producteurs et productrices au marché paysan, donc, qui se situe à Millau, fêtait également ses 20 ans. Donc au marché parisien, c'est, si je ne dis pas de bêtises, 25 fermes des alentours, les alentours de Millau, qui vendent de leurs produits dans un magasin qui est géré collectivement, c'est ça?
C'est ça.
Donc 20 ans en arrière, cela nous situe en 2003. 2003 à Millau, c'est l'année du grand rassemblement altermondialiste sur le Larzac, avec comme slogan « D'autres mondes sont possibles » ou encore « Le monde n'est pas une marchandise ». Et une affiche contre l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Du coup, Thierry, tu y étais, je crois?
Oui, j'y étais, oui.
Tu étais également là au début du marché paysan?
Oui, alors en fait, je n'ai pas fait l'ouverture. J'étais dans l'équipe qui a commencé à réfléchir sur ce projet-là. Alors, je ne saurais pas dire exactement quand c'était. Ça devait être courant 2001 ou début 2002, je ne sais plus. Donc c'était parti de l'équipe du GIE des Grands Causses. Donc c'était déjà des gens qui travaillent en collectif, des paysans qui travaillent en collectif depuis pour la transformation et pour la vente depuis déjà une vingtaine d'années. C'était au début des années 80. Et donc eux, ils ont toujours d'ailleurs un camion pour faire les marchés. Et à un moment, ils se sont dit, mais plutôt que faire un marché à Millau dans notre camion, si on avait une boutique, on pourrait vendre tous les jours. Et puis ils se sont dit un peu plus loin, mais à ouvrir une boutique, ça marcherait encore mieux si au lieu d'avoir que nos produits à nous, c'est-à-dire s'ils avaient de la viande, plus il y avait un apiculteur aussi avec. Mais si on élargissait la gamme, ce serait plus intéressant. Donc un jour, l'un d'eux, Christian, m'a dit, bah, puisque tu fais du pain, ce serait intéressant qu'on ait du pain aussi au marché paysan. Enfin, ça ne s'appelait pas marché paysan, dans notre prochaine boutique. Bah, je dis, bah, pourquoi pas. Donc voilà, on s'est retrouvés, quelques réunions, et on ne savait pas du tout si ça allait aboutir en 6 mois, un an, 2 ans, pas du tout. Il fallait chercher un local, tout inventer. En fait, c'est allé relativement vite. Donc, en fait, moi, j'étais un peu pris de vitesse parce que au même moment, j'étais dans les travaux. Je voulais faire un nouveau four. Voilà, j'étais pas prêt à produire plus à ce moment-là. Donc, j'ai laissé passer l'ouverture, en fait. Et un an après, on était deux paysans boulangers sur le coup. Donc, j'ai laissé la place. Et un an après, ils sont revenus me chercher en me disant, bah, si ça t'intéresse toujours, bien, parce que l'autre, finalement, ça l'a pas fait. Et donc voilà, moi j'ai pas fait la première année, mais j'étais avant, et puis du coup ça va faire 20 ans quand même que j'y suis au bout du compte.
Et si je parlais un peu du grand rassemblement altermondialiste, c'est parce qu'en fait au marché paysan c'est un peu une nouvelle forme d'organisation de la vente, ce serait une organisation locale du commerce quelque part. Donc la vente en circuit court est aujourd'hui assez fréquente et bien comprise, mais il y a 20 ans, c'était un nouveau comme projet.
Bah, en fait, les circuits courts, ça a toujours existé, parce que le marché sur le passe de Millau, il est là depuis...
Oui, mais de s'organiser, par exemple, alors, voilà, c'était le début des AMAP aussi.
Ce qui était nouveau, c'était ça, c'était de s'organiser ensemble. Donc, comme je dis, ce qui était vraiment précurseur, c'était les producteurs de viande, là, qui avait fait le GIE, donc dès le début des années 80, ils ont monté ça. Et après, les magasins de producteurs, je pense qu'on est le premier dans l'Aveyron. Il y en avait déjà eu quelques-uns en France, mais c'était vraiment pas courant.
Ouais.
Et du coup, la grande différence aussi avec ceux qui peuvent se monter maintenant, c'est que nous, on avait vraiment fait ça tout seul. C'est-à-dire, comme c'était précurseur, il n'y avait pas du tout d'aide prévue à ça, alors que maintenant, les projets qui se montent sont souvent accompagnés pour les chambres d'agriculture ou autres. Pas toujours, mais disons que nous, ça s'est vraiment monté avec zéro subvention, simplement avec la bonne volonté et l'argent des producteurs qui étaient sur le coup.
Oui, vous avez inventé un peu le modèle, quoi. Du coup, les AMAP qui sont nés à peu près au même moment, au début des années 2000, ce sont des associations. Au marché paysan, quel est le statut ?
Non, en fait, c'est une SARL.
Ouais.
Un peu particulière parce qu'en fait, c'est une SARL, mais de fait, pour les statuts, on est obligé qu'il y ait sur le papier qu'il y a deux gérants, mais de fait, personne, si quelqu'un vient à nos réunions, il ne saura pas deviner qui est gérant ou qui ne l'est pas. On a vraiment. Toutes les décisions sont prises en collectif. Enfin, les grandes décisions, après, chacun peut prendre des petites décisions selon le domaine qui lui est attribué. Quoi. Mais c'est vraiment une gestion collective. C'est pour les questions statutaires, administratives qu'on a fait une SARL, parce qu'au début aussi, on a un petit peu affaire d'achat-revente, donc il fallait un statut pour ça. Pour le commerce équitable aussi, ça nous permet d'acheter des choses, mais l'organisation est vraiment collégiale. Il y a une réunion par mois où qu'elles viennent tous les producteurs, et les décisions importantes sont prises là.
Et du coup, ça répondait à quel besoin et à quelle réflexion cette construction, ce montage du marché paysan ?
Ça répondait à un besoin de petites fermes, la plupart c'est des petites fermes, alors quand c'est des grosses fermes, c'est qu'il y a beaucoup de monde sur la ferme, donc ça revient un peu au même. De pouvoir trouver une clientèle nouvelle avec... Alors la plupart on continuait quand même à faire des marchés à côté. Je veux dire, c'est pas le seul débouché, le marché paysan. D'ailleurs, on a fait attention à ça au début pour que les gens ne soient pas dépendants complètement de la structure, parce que si jamais ça ne marchait plus, c'est quand même embêtant. Donc, ça a permis plusieurs choses. Un petit peu plus de confort de travail, on peut dire, parce que le fait de mutualiser, c'est plus souple de faire des permanences au marché paysan que de faire des jours de marché où le marché à Millau, c'est le vendredi, point, et on ne peut pas y couper. Alors que là, on fait le permanence le mardi, finalement on ne peut pas, on va changer avec quelqu'un qui fera le jeudi, enfin voilà. Ça permet plus de souplesse, et puis ça permet aussi d'être présent tous les jours à la vente, en fait. C'est-à-dire que nous, on n'y est pas physiquement tous les jours, puisqu'on fait, on se relaie à tourner à la boutique, mais nos produits, ils sont tous les jours, donc c'est quand même plus intéressant. Et puis voilà, le produit de l'un peut attirer pour vendre celui de l'autre, donc c'est une mutualisation. Donc ça, c'est l'aspect commercial, l'intérêt économique. Et au-delà, pour moi, il y a aussi un projet, on pourrait dire politique, en ce sens que ça participe à une relocalisation de l'alimentation. Et ça, on peut dire qu'au début, il y avait une clientèle, tout début, un peu plus de copains, de militants, mais très vite, ça s'est élargi et les gens viennent parce que ce qu'on leur propose, ça leur va.
Toi, Jonathan, tu es rentré quand au marché paysan ?
Moi, j'ai repris, en fait, le GAEC de la Mayou. Il était à la création du magasin, donc Paul qui était au début. Et moi, j'ai repris la ferme. Je me suis associé avec Paul et Michel en 2022. Donc, j'avais commencé à voir un peu le fonctionnement du magasin en 2021. Et je suis rentré, en fait, officiellement pour faire les permanences et toutes les réunions en 2022.
Voilà. Et du coup, vous vendez ou ailleurs qu'au marché paysan, c'est, vous faites les marchés, vous vendez à la ferme ou vous avez d'autres modes de distribution ?
Ben, pour nous, c'est marché. Ouais, on fait le marché de Millau, on fait le marché de Nantes, on fait le marché de Montredon l'été. Donc après, il y a des magasins. On livre les Biocop à Millau, à Saint-Afrique, quelques magasins comme ça et quelques restaurants. Voilà, c'est... Mais le marché paysan, c'est quand même important pour nous.
Ouais, qu'est-ce que ça vous apporte ?
C'est important pour nous déjà au niveau des ventes, puisque ça représente quand même, je dirais presque un tiers de nos ventes, quoi. Et après, c'est un peu une aventure d'être tous ensemble comme ça pour faire tourner le magasin. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et de vendre les produits de tout le monde quand on est en permanence, de faire évoluer le magasin aussi quand on a fait les travaux l'année dernière, c'était un peu des choix collectifs. Cette année, on est accompagné par un organisme pour nous aider un peu à avancer sur des questions de prise de décision, de fonctionnement du magasin, du règlement intérieur, tout ça. Donc je suis pas mal aux réunions, ça m'intéresse aussi quand même qu'on essaye toujours d'aller dans le bon sens, quoi.
Et vous, à la ferme des Truelles, vous faites les marchés pareil ?
Oui, nous on fait tout en vente directe, donc il y a le marché paysan, mais les marchés et la vente à la ferme, c'est très marginal, comme il faut vraiment vouloir venir, venir chez nous. Mais oui, on fait tout marché. Tout en vente directe.
Alors du coup, la vente directe, donc tu parlais aussi d'un aspect politique. Donc c'est une volonté de votre part. Et pourquoi ? Et c'est aussi un projet de territoire.
Oui, en même temps, moi je fais toujours attention. Je veux dire, il y a la place pour plusieurs modèles en fait. C'est-à-dire que si tous les producteurs laitiers, par exemple, du coin... Parce qu'on est un pays où il y a beaucoup de brebis, est-ce que c'est le territoire qui s'y prête, c'est le cost qui est fait pour recevoir des brebis, on pourrait dire. Donc si tout le monde se mettait à transformer sur place et vouloir vendre sur place, il y aurait un encombrement aussi, ça peut pas. Donc c'est bien aussi qu'il y en ait qui travaillent à une autre échelle, par exemple les bergers de Larzac, il y a quand même, je ne sais plus combien ils sont maintenant, mais au moins une quinzaine de fermes ou plus qui sont... organisé pour collecter leur lait ensemble, le transformer ensemble, et du coup, lui, il part un peu dans toutes les régions de France, quoi. Parce qu'il y a des régions où il n'y a pas de fromage de brebis. Donc voilà, c'est important de faire du local au maximum. Je dirais, pour les consommateurs, c'est le plus logique, c'est d'aller vers du local, mais on ne va pas empêcher les gens d'acheter un camembert, alors qu'ici, on n'en fait pas non plus. Donc, il y a aussi la place pour d'autres choses, quoi. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur place et qu'on peut consommer sur place, et du coup, là, c'est notamment par rapport aux légumes, quoi. C'est quand même stupide d'acheter des tomates au fin fond de l'Espagne, alors qu'on peut en produire ici. Avec la différence, c'est que nous, les saisons sont plus courtes et qu'il faut aussi accepter de respecter les saisons.
Ouais. Bah, pour moi, la vente directe aussi, ça tombe bien, c'est quelque chose qui m'intéressait de vendre directement nos fromages, mais c'est aussi le fait qu'on ait une petite ferme, par exemple, et si on voulait vendre en gros nos fromages, on ne s'en sortirait pas. Donc pour nous, dans des petites productions comme ça, de vendre en direct, ça nous permet de vivre correctement, alors que qu'on pourrait pas, par exemple, ou livrer notre lait à une fromagerie, pour nous, ce serait pas possible, quoi, parce qu'on est une ferme avec pas énormément de terres, des terres pas très riches, du coup, c'est vrai qu'on peut pas produire non plus assez pour que ce soit rentable en livrant le lait, quoi.
Il y a un effet d'échelle, en fait. Hein.
Bah, ça permet, je pense que la vente directe, ça permet d'installer, de faire vivre des petites structures, en fait, aussi. Voilà. Donc après, c'est sûr que pour les plus grosses structures, bah, c'est peut-être plus intéressant aussi de pas faire tout en transformation, pas tout transformer, et, voilà. Faire marcher de plusieurs échelles, quoi.
En fait, nous, c'est exactement pareil, notamment pour le pain, le peu de blé qu'on produit. Si on vendait le blé, on gagnerait absolument rien, quoi. Alors que le fait de le transformer en farine sur place et puis en pain et de le vendre directement, ça permet de dégager un revenu. Et pour le pain, moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'autres paysans boulangers dans le secteur. Le plus proche était en Broquiès, quoi. Et maintenant, il y en a de plus en plus et on peut dire qu'il y a la place... Pour d'autres. Après, ce qu'il faut espérer, c'est que la clientèle suit et puis viennent acheter ce genre de pain plutôt qu'un autre. Mais vu ce qui se consomme en pain sur Millau, il y a quand même la place pour pas mal de paysans boulangers.
Ouais. Donc là, on voit le lien entre la vente directe et le fait que ce soit des petites fermes. Donc ça, c'est un choix aussi d'avoir une petite ferme.
Au tout début, c'est-à-dire si on remonte avant le marché paysan et à la création des GUE des Grands Causses, c'était une des raisons aussi pour laquelle ils s'étaient organisés pour transformer découper leur viande et puis la vendre ensemble. C'est que c'était, il n'y avait pas que des gens du Larzac, mais notamment ceux du Larzac qui venaient de s'installer suite à l'abandon du projet de camp militaire. Donc à la création de la CCTL, il y a des petites unités qui ont été définies, des fermes qui ont été reprises, et ce n'était pas des très grosses fermes. Donc il fallait aussi trouver un moyen de valoriser et de pouvoir vivre avec ça et faire la vente directe. C'était le moyen qui a été trouvé. Je pense même qu'il y en avait d'autres.
C'est une question de travail aussi. Enfin, quand on fait de la vente directe... Du coup, par exemple, il peut y avoir des fermes qui sont plus grosses, qui font de la vente directe, mais dans ce cas, c'est plus d'associés. Souvent, nous, par exemple, au marché paysan, on a quand même quelques fermes qui sont un peu plus grosses et qui en fait, du coup, ont beaucoup d'associés, quoi. Parce qu'en fait, ça diversifie aussi le travail. Donc là, on touche un peu à tout quand on livre juste son lait ou quand on doit transformer, faire les fromages, plus aller vendre derrière. C'est sûr, c'est pas du tout le même travail, en fait. Enfin, pour moi, c'est quand même ça apporte plus de changement, quoi, de variation dans la journée, quoi. Des fois on s'en passerait, mais des fois c'est bien.
Ouais. c'est aussi une satisfaction de savoir qui mange ce qu'on produit, en fait. Parce qu'on a un retour direct des clients, on a un lien avec eux, et ouais, moi je trouverais beaucoup moins intéressant de produire la nourriture et qu'elle parte on ne sait où, mangée par on ne sait qui. Là, il y a vraiment un lien et bon, mais maintenant, on n'a pas prétention à nourrir tout, chaque ferme on a pour nourrir tout Millau, hein, de toute façon, on ne peut pas. Donc, moi, par exemple, j'accepte très bien, j'ai des très bons copains qui me pendent mon pain et qui l'achètent ailleurs, et c'est très bien comme ça. Et puis, je suis aussi très content d'avoir des gens que je ne connaissais pas qui me disent « Ah, mais ça fait longtemps qu'on mange votre pain, on est très content. » Enfin, voilà. Il y a un retour qui est très gratifiant, en fait.
Oui, et inversement, c'est intéressant de savoir qui produit ce qu'on mange, quoi.
Bah, vu côté consommateur, oui.
Et du coup, quels sont les liens que vous tissez entre producteurs sur les Larzac ou entre associés au marché paysan? Est-ce que le fait de mutualiser la vente, ça crée d'autres formes d'échanges entre vous?
Oui, c'est sûr. Bon, après, déjà, sur le Larzac, déjà, il y a quelque chose de base. Toutes les fermes sont quand même reliées entre elles. Pas géographiquement, quoi, ça joue fort, même si on est tous un peu espacés, on se voit régulièrement. Et après, marché paysan, bah, du coup, ça amène encore autre chose. Des gens qui ne sont pas forcément sur notre secteur. Nous, on est sur le Larzac, mais il y en a, c'est vrai, qui sont quand plus vers Sainte-Afrique. Tout ça, c'est, ça fait quand même loin.
Oui, ou le Levezou aussi.
Ou le Levezou, ouais, il y en a beaucoup qui sont sur le Levezou. Ouais. Et ouais, du coup, ça fait une sorte de groupe. On se voit quand même assez régulièrement. On se croise beaucoup au magasin, dans les permanences, dans les réunions, dans toutes les commissions qu'on a pour faire fonctionner le magasin. C'est vrai que ça fait beaucoup d'échanges. Forcément, il y a des gens avec qui on a des affinités.
Ouais. Puis, il y a une bonne dynamique de groupe, en fait. Enfin, moi, je trouve les réunions, c'est... Bon, ça peut être pesant parce que ça fait... Il faut se déplacer, il faut y aller, il faut se coucher tard. Mais en même temps, il s'y passe quelque chose et on sent qu'il y a de la vie, il y a de l'échange. Et puis, ça fait quand même 20 ans que ça dure et que ça marche. Et ça s'est renouvelé et ça continue. Et ce que je vois, c'est que... Voilà, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir pendant des années. Et ce que je vois, c'est que ceux qui arrivent en prennent aussi.
Alors, quelles sont les commissions dont tu parlais, Jonathan ?
Bon, les commissions, ça peut être, par exemple, en ce moment, il y a des commissions qui s'occupent, une commission qui s'occupe de la communication du magasin, parce qu'on veut changer certaines choses et peut-être être un peu plus visible de l'extérieur, parce qu'on a l'impression des fois que c'est vrai qu'on n'aime pas trop le terme un peu de faire de la pub, mais c'est vrai que c'est un peu nécessaire aussi pour renouveler un peu la clientèle et on peut, il y a aussi des commissions pour les aménagements. Il y a toujours des aménagements, toujours des choses à changer. Il y a des choses dans les travaux qui ont été faites pendant les travaux qu'on veut encore un peu améliorer. Après, il y a les commissions pour organiser des événements. Voilà.
Et vous faites partie de quelle commission ?
Moi, en ce moment, je suis dans la commission aménagement du magasin. Voilà.
Bah, moi, je ne suis plus dans des commissions, sauf que si, jusqu'à présent, je participe à l'animation des réunions, en fait. Voilà. On a une réunion mensuelle, en fait, où on vient tous et on compte ça, puisqu'on compte les heures qu'on fait pour le marché paysan. Quelqu'un qui ne vient pas à la réunion, ben, voilà, ça lui fait moins de 3, moins de 3 heures. Ça fait partie de notre compte d'heures. Donc, en fait, on n'est jamais... tous, parce que bon, forcément, sur le lot, il peut y avoir 2, 3, 4 empêchements, mais on est quand même,
ouais, on est quand même
18-20 au moins à chaque réunion. Oui.
Donc comment vous organisez entre associés au marché paysan pour la gestion du magasin? Là, je vois qu'il y a des commissions, il y a un nombre d'heures, c'est-à-dire que quand quelqu'un s'engage au marché paysan, il a un certain nombre d'heures à faire, c'est ça?
En fait, nos heures qu'on fait pour le marché paysan, ils sont calculés par rapport à notre chiffre d'affaires, en fait. Donc tout ce qu'on vend au marché paysan, après, on fait des heures au marché paysan pour que ce soit juste, quoi. Et il y a juste il y a 3 journées de base de permanence. Et après, donc, tout le reste qui est calculé par rapport aux heures. Et après, tout ce qu'on fait dans les commissions, c'est compté dans ce temps-là, quoi. Voilà. Pour essayer d'avoir une justesse entre associés, quoi.
Disons qu'une heure est toujours une heure, qu'on soit une heure derrière la caisse, ou une heure à bricoler les étagères, ou une heure à faire de la paperasserie pour le magasin. Voilà, c'est des heures comptées. Et... Voilà.
C'est-à-dire que tout le monde fait toutes les tâches ?
Non, non, non.
Non, non, il y a des gens qui sont, spécialisés. Par exemple, il y a André qui est trésorier, donc lui, c'est vrai qu'il ne va pas être en permanence au magasin, qu'il ne va pas faire tenir les permanences, mais donc lui, il va avoir du travail autre. Il y en a qui s'occupent de la compta, voilà. Donc chacun, il y en a qui ont des rôles spécifiques.
Il y en a une qui s'occupe du planning, par exemple, parce que c'est un sacré boulot
de organiser ça. Oui, il vaut mieux un suivi aussi dans le planning.
Ouais. Ouais. C'est principalement ça, la trésorerie, le planning, ce qui est fixe. Après, c'est selon l'actualité. Voilà, quand il y a des travaux, ben, y en a qui font beaucoup d'heures de travaux. Ou quand on décide de faire un petit chantier, il y en a qui vont s'y mettre d'autres noms. Et ça fait des heures qui sont comptées dans notre quota.
Et après, les stocks, chacun gère ses stocks comment, ouais.
Ah oui, en fait, le magasin, c'est pas le magasin qui vend, on pourrait dire. C'est chacun, chacun d'entre nous vend au magasin, se sert du magasin pour vendre. Mais oui, chacun s'occupe de ses stocks, de reprendre les invendus s'il y en a, ouais, d'approvisionne. Après, en rayon,
c'est celui qui est à permanence, quoi. Celui qui tient le magasin, il doit s'assurer que les rayons sont remplis. Et voilà.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. J'aurai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. J'aurai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Coin de soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur.
nous retrouvons Jonathan de la ferme de la Mayou et Thierry de la ferme des Truelles, donc tous deux paysans et associés au magasin de producteurs et productrices au marché paysan qui se situe à Millau. Et alors, est-ce que le projet au marché paysan a marché tout de suite en termes de vente et d'organisation entre vous?
Oui, on peut dire que ça marchait. En fait, ça a mieux marché que prévu parce que les premières années, il y avait un prévisionnel qui avait été fait. Et très vite, ça a dépassé. Alors oui, il y avait deux niveaux dans la question. C'était au point de vue économique et puis au point de vue humain. Quoi. Alors au point de vue économique, ça a très bien marché. Si bien que assez vite, on avait été confronté à la question plutôt de difficultés d'approvisionnement plutôt que de difficultés de manque de clientèle. Je sais qu'on avait eu des réflexions, des gens qui étaient mécontents parce qu'il n'y avait pas assez, parce qu'il y avait des étagères vides. Et du coup, on n'en est plus du tout à cette phase-là. Mais les premières années, la question, c'était plutôt ça. Et après, sur le plan de l'équipe, on peut dire que oui, ça a toujours marché. Alors, si je vous disais qu'il n'y a jamais eu de conflit, vous ne le croiriez pas, j'espère. mais en fait, oui, parce qu'il y a eu parfois des choses difficiles. Il y a des gens qui sont partis parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans le groupe. Parce que, en fait, je ne pense pas que ce soit fait pour tout le monde d'être dans un projet comme ça. Il y en a qui sont très individualistes et qui mènent très bien leur projet à eux. Et puis, c'est très bien comme ça. Ils font leurs affaires tout seuls. Là, il faut avoir un certain esprit, être assez conciliant, savoir travailler avec d'autres. Et ouais, ou dans un schéma où il n'y a pas quelqu'un qui décide pour les autres. Donc ça demande du temps. C'est vrai que c'est plus difficile de décider à 25 que de décider tout seul. Mais on peut dire que depuis 20 ans, ça marche.
Et ça a été une progression comme ça, régulière, ou est-ce qu'il y a eu des étapes intermédiaires ou des moments clés?
Alors je ne saurais plus dater exactement, mais pendant longtemps, la progression, vraiment, c'était chaque année un peu plus, chaque année un peu plus. Et là, ça fait quelques années que c'est à peu près stabilisé, que ça baisse un peu, ça remonte un peu, ça rebaisse un peu, ça remonte un peu, mais... Mais alors je ne saurais plus dire depuis quand. Je pense que c'était la période un peu avant Covid. Oui, il y a 5-6 ans que ça doit être à peu près stable. Enfin, je ne sais pas si peut-être tu as étudié les comptes avant de rentrer.
Pas plus que ça. Ça avait un peu monté pendant le Covid et là c'est redescendu. Ouais.
Ouais, le fameux effet Covid sur la vente directe et locale.
Ouais.
Et du coup, en termes de perspective, d'évolution, est-ce qu'on peut dire que là, au marché, est à sa vitesse de croisière, ou est-ce qu'il y a encore des évolutions à anticiper ou à réguler, quoi?
Moi, je pense que oui, c'est un peu la vitesse de croisière. On essaye de pas baisser déjà. Voilà. En fait, c'est plutôt là-dessus aussi qu'on a commencé un peu, le travail sur la communication. Qui est important pour nous, c'est pour qu'on reste un peu à ce rythme-là et qu'on ne descende pas, quoi. Et voilà, c'est pas évident parce que c'est vrai que peut-être les gens avec... on a l'impression en tout cas qu'avec l'inflation, y a beaucoup de personnes qui sont peut-être... qui ont eu des problèmes et qui sont plus tournées vers les supermarchés, voilà. Et voilà, nous, on essaye un peu de montrer que c'est pas forcément un choix judicieux.
Bah oui, il me semble que l'inflation était plutôt dans les produits.
Oui, bien sûr, mais après nous, voilà, nous,
oui.
On est quand même, je pense qu'on est touché, par ça. En tout cas, on le sent sur les marchés aussi. Voilà, forcément, quand on n'a pas d'argent pour s'acheter à manger, c'est plus compliqué, quoi. Donc.
Et du coup, vous voyez comment au marché paysan dans 20 ans? Est-ce qu'il y a un enjeu là?
Alors là, moi, on essaye que ça reste donc sur un rythme. Si on est sur un rythme de croisière, on essaie que ça reste un peu pareil, quoi.
En fait, c'est vrai que moi, j'imagine pas maintenant d'évolution spectaculaire, en fait.
Ouais.
N'empêche que comme l'équipe se renouvelle, il y a quand même toujours des idées nouvelles. Enfin, je veux dire, rien n'est jamais figé, tout évolue toujours, quoi. Donc, de fait, ça évolue. Et si on peut dire une grosse évolution qu'il y a eu quand même, c'est, alors je ne sais plus quand maintenant, c'est 4 ans maintenant, 5 ans, où on a abandonné complètement la charvente, c'est-à-dire que pendant un temps, pour le rayon légumes, pour le compléter, on achetait en plus, parce que voilà, notre volonté c'était de vendre des produits locaux, mais on s'était aperçu que s'il y avait de trop grands trous, ben voilà, si pendant 2 mois ou 3 on n'avait plus de salade, ben, les gens ils venaient plus non plus acheter des carottes, même si on avait quand même des carottes. Donc ça a été, le rayon légumes, on avait vraiment, en réunion, ça nous a vraiment pris beaucoup beaucoup de temps, et on avait beaucoup hésité au bout de je ne sais plus combien d'années, quelques années après l'ouverture du magasin, à faire ce compromis d'acheter. Alors à partir du moment où on achetait, c'était compliqué parce que on n'allait pas acheter des oranges. Donc on s'est dit, on achète ce qu'on aimerait pouvoir produire et qu'on ne peut pas encore produire en attendant de pouvoir le faire. Et ça a duré quelques années. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les clients étaient très contents, même que ce ne soit pas local, parce qu'au moins ils avaient ce qu'ils voulaient. Et on s'était aperçu, on pouvait très bien dériver là-dessus. Donc on se mettait des garde-fous, c'était assez compliqué. Et il n'y a pas si longtemps, on a complètement abandonné ça. On a pu le faire parce que on le faisait pour les fruits et légumes. Hein, parce que les producteurs locaux se sont développés, offrent plus. Il y a le jardin du Chéran notamment qui est rentré il y a quelques temps dans le magasin. Donc maintenant, on n'a vraiment que des fruits et légumes locaux. Et bon, alors voilà, il va falloir lui faire aussi quand même un peu de pédagogie, parce que du coup, il y a quand même, sur l'année, la palette est moins large. Mais ça, bon, ça marche bien. Mais c'est toujours un défi pour eux. C'est quand même compliqué pour les producteurs de légumes. Il faut aussi qu'ils s'entendent entre eux, pour voir qui va produire quoi, à quelle quantité. Et sachant que on fait des prédictions, mais on ne sait pas ce qu'on va récolter. Donc c'est toujours assez difficile, mais ça, voilà, ils arrivent à s'entendre.
Ouais, c'est vrai que l'arrivée du jardin du Chéran, pour ça, je pense que c'est une bonne solution à la fois pour le marché paysan et à la fois pour le jardin du Chéran.
Ouais.
Et sur vos productions à vous, les enjeux des années à venir, vous les voyez où et comment ?
Moi, j'ai pas énormément de recul parce que je me suis installé il n'y a pas longtemps. Après, c'est sûr que quand on voit les dernières années, l'enjeu, c'est plus sur réussir à nourrir les bêtes correctement et pour pouvoir continuer à produire, quoi.
Donc sur les conditions climatiques, c'est ça ?
Oui, sur les conditions climatiques, sur les sécheresses en été quand même qui durent, qui sont de plus en plus longues, donc c'est sûr que pour nourrir les bêtes, c'est pas évident. Réussir à faire du foin, surtout sur le plateau, où c'est vrai qu'on a des terres, on va dire, pas très profondes, bien caillouteuses, du coup, c'est vrai que ça retient pas énormément l'eau.
Oui, c'est aride, ouais.
Donc, si on n'a pas d'eau, on fait pas de foin. Voilà. Et comme il y a de plus en plus de moments dans l'année où on doit donner du foin, c'est compliqué, surtout en production laitière.
Ouais. Et là, vous voyez des solutions, ou vous imaginez des choses, ou vous avez déjà mis en place des fonctionnements à part ouais. Acheter du foin ou je sais pas.
Oui, c'est sûr, il faut prendre soin des parcours, je pense. On a beaucoup de parcours sur le plateau pour faire pâturer les bêtes. Il faut faire attention à garder des arbres, mais pas trop non plus, juste ce qu'il faut. Et faire attention à l'herbe, la manière dont on la fait manger. Et puis aussi pour faire le foin, il y a des nouvelles pratiques qui se développent beaucoup. On plante, on sème des fourrages qui sont plus résistants à la sécheresse. On essaye de semer. On sème beaucoup des céréales à l'automne pour essayer de faire plus de foin quand on fauche au printemps. Il y a des petites astuces qui se généralisent, ouais, et qui marchent pas mal. Mais bon, ça, ça, ça change pas tout non plus. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau.
Mais bon. Et puis ça demande aussi peut-être un investissement, ne serait-ce que, qu'en charge mentale importante.
Oui, après ça, je pense que c'est normal. Quoi. Le but quand on cultive la terre, c'est d'essayer de faire, bah, nous en tout cas, quand on est éleveur, c'est d'essayer de nourrir les animaux. Donc je pense qu'on est tellement le nez dans le guidon que de toute façon, on y pense tout le temps. Donc,
ouais, vous adaptez tout le temps aux situations.
Voilà, il faut toujours, de toute façon, on travaille avec le temps. Et donc on est toujours en train un peu de regarder la météo, de savoir ce qu'on va faire. À ce niveau-là, voilà. Ça change, c'est plus dur, mais je pense que de toute façon, on y pense. Donc ça change pas la charge mentale. Après aussi, je pense qu'on a tous des situations différentes. Et suivant la manière dont on... le nombre de bêtes qu'on a à nourrir par rapport à nos surfaces et comment on valorise derrière aussi, c'est vrai que quand on livre son lait, c'est plus compliqué d'acheter après, si on a une mauvaise année, d'acheter que si on transforme et qu'on vend, ou qu'on a peut-être plus de moyens de nourrir peu de bêtes quand on valorise mieux, quoi. Je pense que la problématique est différente pour tout le monde aussi. Ouais.
Thierry ?
Oui, la question c'était comment on voit comment l'évolution, c'est ça ?
Oui, l'évolution des années à venir par rapport à la production cette fois-ci.
Par rapport à la production ? Bah nous, de toute façon, si j'en reste, puisqu'au marché paysan, on y est pour le pain. Si je reste sur le pain, on a une capacité de production très, très limitée. Alors cette année, par contre, nous, ça a été très bon. On a fait une très bonne récolte de blé, quoi.
Mais après, c'est un équilibre dans la ferme. Il n'y a pas que le... Quoi, vous ne vivez pas qu'avec le pain. C'est...
Non. Ouais,
donc,
ouais.
C'est un ensemble.
Oui, bah, en fait, on est sur les mêmes problématiques que celles que viennent... de décrire Jonathan, quoi. Ouais, il y a des questions pour l'avenir. Mais bon, nous, c'est vrai, comme il disait, on est... Ça reste... C'est, comment dire, c'est beaucoup plus logique et plus gratifiant de produire toute la nourriture pour nos troupeaux. Mais même si on doit acheter, pour nous, c'est pas économiquement, c'est pas catastrophique, en fait. Du fait qu'on valorise quand même bien. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout et qu'on ne veut pas faire de la production. Mais ouais, le fait d'être en vente directe, de valoriser comme on le fait, nous protège relativement.
Du coup, vous êtes aussi tous les deux en agriculture biologique. Est-ce que ça s'est présenté comment ? C'était une évidence ou... Jonathan ?
Oui. Moi, en fait, quand on a repris la ferme, elle était déjà en agriculture biologique. Et ouais, Paul et Michel étaient passés en 2018 en agriculture biologique. Mais donc, de toute façon, ça allait de soi pour moi. Enfin, j'étais depuis très très longtemps. Je mange beaucoup des produits de l'agriculture biologique. Et puis, j'étais vachement intéressé par ça. Là où j'étais avant, j'étais dans des AMAP, hein, tout ça. Donc, pour moi, c'est. Et puis, je travaillais dans une ferme qui était déjà en bio avant. Donc c'est sûr que c'était une évidence. Après, de toute façon, la manière dont on travaille, c'est sûr que il n'y a pas de raison pour moi de ne pas y être, quoi.
Thierry ?
Oh, pour moi, ça relève de l'évidence aussi. Nous, on est certifié depuis 2000 en bio. Avant, on ne l'était pas certifié. En fait, on avait une pratique bio, mais on ne pouvait pas être certifié parce que déjà, on n'a jamais été complètement autonome pour l'alimentation du troupeau, et c'était pas si évident de trouver trouver l'alimentation en bio, ou alors c'était très cher et ça renchérissait au final pas mal nos produits. Puis voilà, au tournant des années 2000, ça s'est quand même un peu plus développé, donc on a vu qu'on pouvait trouver acheter ce qui nous manquait en bio. Et du coup, voilà, ça n'a pas changé beaucoup, ça n'a pas vraiment changé nos pratiques, hein, sauf que les fournisseurs, on était obligés de prendre du bio, ce qui est très bien. Et voilà, moi, s'il y a quelque chose que je ne remettrai pas en cause, c'est ça. Moi, je suis en train là de passer la main et je me dis, bah, mes successeurs, ils font ce qu'ils voudront, quoi. Mais il y a au moins un truc qui je voudrais qu'ils ne changent pas, c'est ça, et je pense que je suis assez tranquille là-dessus.
Et c'est plus facile d'être en bio, par exemple, aujourd'hui, par rapport à ce que tu dis sur les, pour le, avoir accès à des l'alimentation qui n'est pas produite sur, le, sur la ferme. Et comment le bio a évolué en 20 ans?
Déjà, si on peut revenir au marché paysan, par exemple, au début, on était une minorité en bio. Sachant que le marché paysan ne s'est pas construit sur des produits bio, mais sur une production paysanne. Quoi. C'était l'agriculture, l'agriculture qu'on appelle l'agriculture paysanne et locale. Mais de fait, petit à petit, le bio a gagné du terrain. Maintenant, alors, je ne saurais pas quantifier, mais on est, je pense, une bonne majorité.
Déjà, tous les fruits et légumes. Et une bonne partie, je pense, au moins 80%. Peut-être. Facile. Ouais.
Le bio, c'est un peu compliqué actuellement avec les labels. Quoi. Pendant longtemps, il y a eu 1, 2, 3 labels. Là, il y en a pas mal. Le consommateur s'y perd un peu. Est-ce que c'est une condition, par exemple, d'être bio pour être au marché paysan? Donc j'ai cru comprendre que non.
Mais non, comment vous disiez, ouais. En fait, non, c'est pas discriminant, en fait.
Ouais.
C'est un peu compliqué. Pour certains produits, par exemple, un légume, on a décidé, comme au départ, les premiers étaient en bio. Les gens sont habitués à ce qu'on ait des légumes bio et on a décidé de garder toujours légumes bio. Donc, un maraîcher qui voudrait rentrer qui n'est pas bio, on ne le prendrait pas, en fait. Mais voilà, ce n'est pas le cas pour tout. Par exemple, pour les agneaux, c'est assez particulier. Il y en a qui sont en bio, d'autres qui ne le sont pas. En fait, ceux qui ne le sont pas... ceux qui ne sont pas certifiés, mais ils ont une pratique qui est quand même très proche de ceux qui sont en bio. Mais ils ont décidé du coup de ne pas communiquer dessus. Et voilà, ceux qui vendent le bio ne marquent pas que c'est de l'agneau bio. Donc, ta question, c'est sur le marché paysan. C'est quand même une question qui revient de temps en temps par la clientèle. C'est vrai que parfois, peut y avoir des quiproquos, que les gens, comme il y a une majorité de bio maintenant, croient que c'est un produit bio. Mais en fait, c'est pas compliqué. Quand c'est bio, c'est marqué. Si c'est pas marqué bio, ça l'est peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est pas garanti que c'est bio. Mais quand c'est bio, c'est... On va pas jouer à mettre des choses
bio
qui ne sont pas.
Oui,
quant au label, en fait, c'est pas compliqué. Il y a un label bio. Après, si, c'est vrai, il y a eu un moment, on avait producteur Nature et Progrès.
Bah oui, il y a eu Nature et Progrès qui, à un moment, était bien, bien là, ouais.
Oui, ce qui est très bien parce que c'est encore, on pourrait dire, mieux que le bio, mais les gens ne savaient pas toujours ce que c'était. Donc souvent, ceux qui sont Nature et Progrès ont aussi la certification bio. Mais en ce moment, je ne sais plus si on a que Nature et Progrès. Je ne suis pas sûr qu'il en reste.
Ah ouais, il n'y a pas...
Peut-être les... Okay.
Comment? Ouais, mais okay. Est-ce qu'il a, il a aussi le label bio?
Oui, il a le label bio, c'est sûr.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et du coup, ça m'amène à la question de quels sont les critères pour les producteurs, pour être au marché paysan ou pour les productrices? Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Comment vous, que ce soit lié à la production, au territoire, à la...
Il faut produire ce qu'on vend. En tout cas... ce qu'on appelle le produit discriminant, c'est-à-dire, moi c'est pas mon cas, je fais que du pain basique, quoi, mais ceux qui font du pain aux graines, par exemple, ou pain avec des figues ou des noix, ils sont pas obligés de produire leurs figues et leurs noix, mais il faut qu'ils produisent leur blé, quoi. Donc voilà, pour chaque produit, il faut que le produit de base soit, pour les produits transformés, soit un produit fermier. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est la charte des producteurs fermiers. Mais c'est pas parce que quelqu'un respecte la charte de producteur fermier qui tape à la porte qu'on va le prendre non plus. Là, par contre, c'est en fonction des besoins du magasin. Là, il y a un équilibre. Et puis, alors des demandes, on en a assez souvent. Parfois, on dit oui. Parfois, si ça correspond à un moment, si ça va faire un plus pour le magasin, mais ou s'il y avait un manque, s'il y avait un manque. Mais là, par exemple, pas. Il n'y a pas place pour beaucoup plus de producteurs. Après, il y a aussi la question du nombre. C'est qu'on nous avait mis en garde au début, je ne sais qui, ou les associations qui accompagnaient ce genre de magasin. Oh, mais au-delà de, je ne sais pas combien nous disaient, 12 ou 13, c'est pas possible, ça marche pas. Enfin, nous, on est 25, plus, ça ouais. marche. Après, voilà, le même fonctionnement, si on était 50, c'est pas, ce serait quand même, c'est quand même plus difficile. Donc, il y a aussi, ça a toujours été une question récurrente, quoi, jusqu'où on peut grandir. Mais de fait, ça s'équilibre à peu près, parce qu'il y a quelques sorties, des gens qui partent à la retraite, qui sont remplacés. Après, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que, donc on est à 25 fermes associées en moyenne, parfois on est 26, parfois 27, parfois 24, enfin voilà, parce que ça bouge un peu. Mais il y a aussi pas mal de fermes associées, c'est-à-dire qui sont en dépôt, donc on prend leurs produits, et là c'est pas les mêmes exigences, c'est-à-dire ils sont pas engagés dans le magasin, ils font pas des heures de permanence, du coup on prend un pourcentage pour le fonctionnement du magasin plus important que pour nous. Et là, ça correspond à des produits qui soient de dépannage. Pendant voilà, une telle saison, ben, les maraîchers n'ont pas pu avoir tel légume. On en connaît un qui n'est pas trop loin, qui peut l'avoir, donc hop, on lui prend. Ou alors produits qui sont en permanence, mais qu'on n'a pas. Par exemple, aucun de nos associés produit des noix, par exemple. Du coup, ben, un producteur de noix qui n'est pas associé au magasin, mais qui est plus loin. Mais si un jour... Par contre, on a un contrat avec eux et qui peut prendre fin, c'est-à-dire qu'on leur donne un préavis. Si un jour, par contre, un des associés du marché paysan produit des noix, eh ben, il va prendre la place et on lui dira, bon, écoute, on finit tes noix cette année, mais, mais après, t'es plus. Voilà, on a plusieurs, on a quand même des producteurs donc, associés occasionnels et aussi d'autres qui sont en permanence pour des produits qui complètent la gamme. Et soit c'est parce qu'ils ne sont pas dans le magasin, parce que soit c'est des tout petits, trop petits volumes de chiffres, donc et c'est pas, ce ne serait pas intéressant pour eux de s'investir dans le magasin, soit c'est des gens qui sont un peu trop loin, même si ça reste régional, mais qui sont plus éloignés. Soit que pour une raison ou une autre, ça ben voilà, ça rentre pas dans leur projet de faire partie du magasin.
Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Et souvent, c'est parce que vu qu'il y a déjà les trois journées de base de permanence, plus toutes les réunions, tout ça, c'est vrai que pour quelqu'un qui a un seul produit, qui n'est pas énormément vendu, ça ne vaut pas forcément le coup, quoi.
Et il y a aussi des produits non alimentaires, ou alors des produits, il y a des tisanes, il y a aussi un peu d'artisanat, il n'y a pas que les produits alimentaires dans le magasin.
Il y a peu d'artisanat quand même.
Produits de la laine, quoi.
Il y a des produits de la laine, voilà. Des produits de la laine. Avant, il y avait de la vannerie parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait de l'agneau qui faisait aussi de la vannerie. Et voilà, mais sinon, c'est vrai que...
En fait, pour faire partie du magasin, il faut avoir un statut agricole. Du coup, quand il y a de l'artisanat, c'est parce que c'est un des paysans qui fait aussi de l'artisanat. Donc, transformer, par exemple, la laine, ses brebis, ou faire de la vannerie en complément de son activité agricole. Mais on n'est pas un magasin de paysans et artisans, ça reste un magasin seulement de
paysans.
De gens qui ont...
Ça reste quand même très majoritairement alimentaire.
Les produits de la ferme. Très bien, bah on peut rappeler qu'au marché paysan, c'est 25 fermes, qui sont situées aux alentours de Millau. Il y a un périmètre approximatif que vous connaissez?
Une heure de route.
À peu près.
Donc géré collectivement, donc avec essentiellement des produits alimentaires, mais aussi quelques autres produits. On peut donner l'adresse peut-être, même si beaucoup de gens ça vous sait. Donc 14 rue Mathieu Prévost à Millau. Et puis c'est ouvert du mardi au samedi.
C'est ça.
De 10h à 13h et de 15h à 19h. Et donc on peut vous y voir en tous les cas certains jours.
Ouais,
c'est ça.
De toute façon, ce sera forcément un paysan derrière la caisse.
Voilà, donc on peut entamer une discussion sur les produits, sur sa production, sur son travail avec la personne qui est au marché paysan.
Ouais.
Eh bien, merci et longue vie au marché paysan.
Et ben, merci à toi.
Ben, merci beaucoup.
Les gens d'ici.
Une série de portraits sonores qui racontent le territoire.
On est arrivé ici... On a vécu comme ça. Et après, papy faisait pas mal de petits travaux à côté. Comme il avait des jours de repos, il allait faire des jardins à droite et à gauche. Comme ça, ça mettait un peu de beurre dans les épinards. Hein. On a toujours fait comme ça. Hein. Et alors, il est retombé dans la charcuterie, le commerce. Là, au début, avant que Tantin Dédé, qu'il hérite de ses parents, alors ses parents, ils faisaient que les marchés. Et Dédé, il a continué à faire comme ses parents. Après, ils ont vendu la charcuterie et Dédé, il a gardé qu'à faire les marchés. Hein. Il fait que les marchés. Dédé, il fait que les marchés maintenant, voilà. Et voilà, et maintenant, il est à la retraite aussi. Mais c'est comme ça qu'on a vécu. Ah, notre vie, elle aurait été plus belle, hein.
Les gens d'ici.
Une série de portraits sonores qui racontent le territoire.